Aujourd'hui, un cours d'apologétique, c'est seulement 9 leçons. C'est un thème très vaste. Si vous faites seulement une petite recherche sur Internet pour consulter les sites qui parlent d'apologétique, là, il y en a des centaines et des centaines. Il y a des livres qui sortent très souvent. Puis c'est un domaine qui est vaste parce qu'on peut avoir différentes approches. Ce cours-là va être donné, je dis « nous » parce que c'est Timothée Frey, aussi Osée Jeudi et moi-même qui allons l'enseigner. La leçon 1, aujourd'hui, on va regarder une introduction puis des fondements bibliques. Pour voir si même l'idée de défendre la foi est légitime bibliquement. On va regarder quelques exemples. La semaine prochaine, on va s'attarder à une approche de l'apologétique, une approche qui considère les visions du monde. Donc, qui fait la différence entre la vision chrétienne du monde dans lequel on est, comment on voit le monde en tant que chrétien, en s'attardant à comment les non-chrétiens voient le monde. Il y a différentes manières. Qu'on soit un musulman, par exemple, ou un athée, un agnostique, ou un bouddhiste. On voit le monde de différentes manières. Cette approche-là apologétique va prendre le temps de comprendre comment l'autre personne voit le monde pour ensuite en soulever les tensions ou les contradictions, pour ensuite présenter la vision du monde chrétienne, la foi chrétienne. Ensuite, on va regarder quelques réponses aux objections qui reviennent souvent face à la foi chrétienne. Donc, soit des attaques ou des doutes, mais des questions qui sont soulevées contre la foi chrétienne. Probablement, ça va prendre 2 semaines pour cela. Ensuite, on va regarder certaines contradictions qu'il y a dans les visions du monde non biblique les plus répandues. Ensuite, on va voir que pour la foi chrétienne, il y a des raisons suffisantes pour croire. Aucun non-chrétien va dire « Ah, ben c'est des preuves que Dieu existe ou des preuves que tout ce que tu dis est vrai. » Ce ne sont peut-être pas des preuves comme la science voudrait qu'on puisse le prouver, mais il y en a tellement que ce sont des raisons qui sont suffisantes pour croire à la foi chrétienne, même contrairement à toutes les autres fois. Ensuite, on va continuer avec des arguments pour expliquer la foi chrétienne dans des sujets qui sont plus controversés, comme le péché, la présence du mal dans le monde, l'enfer, pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi Dieu, le Père, qui est un supposé Dieu d'amour, a sacrifié son Fils. Donc, des questions comme ça, mais on l'explique pour être capable de mieux exposer la foi. Ça va probablement prendre 2 semaines. Et on va terminer avec en mettant l'accent sur le témoignage. Donc, l'apologétique qui ne concerne pas seulement nos paroles, mais toute notre être. Donc, c'est un témoignage aussi par notre caractère, par notre attitude, notre comportement, et surtout par l'Église. Donc, un témoignage dans l'Église qui est essentiel. Le chrétien seul n'a pas le même témoignage que l'Église. On va suivre principalement 2 livres. L'un, c'est un Français, professeur en théologie et en apologétique de France, « Croire, expliquer et vivre », Yannick Imbert, c'est très bon, vraiment biblique. Ouais, c'est en français. C'est un niveau académique un peu élevé, là. C'est un cours universitaire. Puis j'ai l'impression que c'était à l'origine ses notes de cours qu'il a mis dans la version livre. Donc des fois, ça peut être un peu dur à suivre, il y a beaucoup de stock, là, mais on en fait des résumés. Et l'autre, c'est celui de Tim Keller qui est répandu, là, la raison est pour Dieu, « Reason for God ». Celui-là, on le regarde d'un œil critique. Tim et moi, ben, Osée aussi, on est d'accord que parfois Tim Keller va errer un peu dans la philosophie. Il va avoir des réflexions philosophiques qui ne sont pas nécessairement appuyées sur des versets bibliques. Parfois, il va mettre de l'emphase là où la Bible n'en met pas. Ou il va mettre des aspects là où la Bible met de l'emphase, mais il va les mettre sous silence. Donc, parfois, il va tomber dans la philosophie, mais quand même, en général, ses réponses sont logiques et sont vraies. Donc, c'est un ensemble de tout cela qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que c'est que l'apologétique? Avez-vous une définition facile? Oui, défendre. En français, le mot a évolué avec les années. C'est devenu aussi trouver des excuses, faire une apologie ou s'excuser. Mais à l'origine, une apologie, ça veut dire défendre. Ça vient du grec apologia ou apologia. Apo pour dire pour ou en faveur de. Puis le guia qui veut dire la parole. Donc parler en faveur de quelque chose, parler pour. Puis c'est souvent utilisé dans la Bible dans le contexte que quelqu'un t'accuse puis tu dois te défendre, tu dois t'expliquer. C'est même dans le contexte d'un tribunal que c'est souvent utilisé. Donc, c'est une défense. Comme un exemple, c'est dans 2 Timothée 4, quand Paul il parle, je pense, de son passage à Rome, il dit « Dans ma première défense », c'est le mot « apologia »,« apologia », « personne ne m'a assisté ». C'est comme s'il s'est retrouvé là, pas d'avocat. Personne ne voulait l'aider dans sa défense. Il est obligé de se défendre lui-même. « Tous m'ont abandonné, mais qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendu de tous les païens, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Donc vraiment, comme Jésus l'avait promis, lorsqu'on vous traînera devant les tribunaux, là, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous donner les paroles. Donc, Paul en est un exemple vivant, la promesse de Jésus. Donc, si une apologie, c'est une défense, l'apologétique, c'est, ouais, le processus. On pourrait même dire l'art. C'est presque exclusivement utilisé dans le cadre chrétien. Donc, on peut même spécifier que c'est la défense de la foi chrétienne, l'apologétique. On utilise le mot apologie dans toutes sortes de contextes, mais l'apologétique est utilisée en théologie. C'est vraiment dans le cadre de la défense de la foi chrétienne. On a tantôt mentionné 1 Pierre. On va le regarder un peu plus, ce passage, en 1 Pierre 3. « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur, avec crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là, même où on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. » Quels sont les aspects de ce passage-là qu'on peut souligner? C'est quoi les aspects de cette défense-là qui sont soulignés par Pierre? L'attitude de douceur, de crainte, dans une bonne attitude, même on pourrait dire une attitude de respect envers ceux à qui on s'adresse. Notre défense, on sort nos dents là pour ça. Ou comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est pas ce que Pierre dit. Donc avec douceur, avec crainte, ayant bonne conscience. Quels autres aspects? Et c'est d'autant plus important de préserver cette bonne conduite-là, sinon on leur donne raison. Ils peuvent nous traiter d'hypocrites ou de vouloir agir dans notre propre intérêt, mais si on reste fidèle à notre bonne conduite, qu'on fait le bien. D'ailleurs, tout le contexte dans Pierre, là, c'est vraiment de persévérer, même dans la souffrance, même dans les attaques, à faire le bien. C'est en tant qu'hommes et femmes de bien qu'on est appelé à se défendre. Donc, même lorsqu'on se défend, c'est extrêmement important de garder un témoignage de sainteté, de justice. Puis Pierre, il dit, je ne sais pas si c'est dans cette même lettre, que là même, où ils nous calomnient, à un moment donné, lorsque Dieu va les visiter, ils vont le louer, en voyant nos bonnes œuvres, notre bonne conduite. Comme on va le voir, une chose très importante, c'est de connaître notre Bible, connaître la révélation de Dieu. Comment on peut défendre une chose qu'on ne connaît pas bien? Un avocat, pour défendre quelqu'un, prend le temps de connaître la personne qu'il défend, prend le temps de connaître sa situation, son dossier, pour bien le défendre avec justice, avec justesse. Donc, il faut se préparer. Peut-être un dernier point aussi qu'on voit, contre quiconque. Ça veut dire qu'on va rencontrer des situations variées. Comme Charlotte parle à une collègue qui est musulmane, peut-être l'année prochaine, ça va être quelqu'un qui est athée, ou quelqu'un qui est bouddhiste, ou quelqu'un qui est catholique. Donc, d'être prêt, dans le fond, d'être ouvert pour pouvoir parler à n'importe qui. C'est sûr que ça demande parfois que nos connaissances augmentent, ou notre réflexion, notre pif là, qui se développe là, pour comprendre ce que les autres nous disent, mais c'est pour ça que c'est un art, en fait. Parfois, il faut même improviser. Mais ce n'est pas nécessairement une œuvre qui se fait seule. On peut être à plusieurs aussi, ou en église. Donc, être prêt devant quiconque. Ce que l'on défend, c'est notre espérance. Ce que Richard dit, c'est qu'on doit... Trop souvent, on part aussitôt que la personne commence à dire quelque chose. Là, on réagit, puis on veut tout de suite y présenter l'Évangile, puis y dire qu'elle est dans le champ. Mais on doit d'abord prendre le temps de bien écouter, bien comprendre ce que l'autre personne dit.
Dans l'autre traduction, le mot « crainte » est traduit par « respect », avec « humilité » au lieu de « douceur » et « crainte ». Dans ce sommaire, c'est marqué « humilité » et « respect ». Donc, même si l'autre n'est pas d'accord avec nous, même si l'autre est agressif, on doit avoir du respect pour ce que les autres croient. Dans le même sens, on voudrait qu'ils aient du respect pour ce que l'on croit.
Bien, la sommaire a interprété le mot « crainte » plus par rapport à l'autre personne que par rapport à Dieu. C'est deux possibilités, là. Les deux sont bonnes. Respecter, ça ne veut pas dire, comme certains le pensent, là, que « Ah, ben tu as raison. » Que tout le monde a raison. Non, non. Si ce n'est pas une vision chrétienne qu'elle a, une vision biblique, elle a forcément tort. Il y a une seule vérité, et on est convaincu qu'il y a seulement la foi chrétienne qui est conforme à la réalité. Donc, tout ce que les autres personnes croient contient des faussetés. On ne peut pas, au nom du respect, on ne peut pas dire « tu as raison ». Mais ce qui serait irrespectueux, ce serait, par exemple, de se moquer, de ridiculiser, de mépriser. Oui, une attitude d'humilité, c'est ça. Parce qu'on doit bien l'avouer que si on croit à la vérité, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Là. Parce que le Seigneur nous a touché notre cœur. Il a ouvert les yeux de notre cœur.
Le même principe, en tout cas, je trouve que ce texte-là ressemble un peu au texte pour la discipline. Dans le sens où le principe de l'apologétique, c'est qu'on corrige ou on veut expliquer notre foi à quelqu'un qui est dans l'erreur, qui est dans les ténèbres. Mais c'est le même principe avec quelqu'un qui est sous discipline. Puis le but, c'est de gagner la personne au salut. C'est de gagner son frère. Mais, parce que l'apologétique, ça peut même s'appliquer dans le cas d'un chrétien à un autre, mais que l'autre chrétien, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Il se dit chrétien, mais il n'a pas compris.
Non, c'est vrai. C'est la même attitude que lorsqu'on corrige un chrétien. Parce que même le non-chrétien, en réalité, il ne sait pas, mais il est dans l'erreur face à la vérité.
C'est ça.
Même quand il présente l'Évangile, on est en train de le corriger, de le ramener à la vérité. Oui, c'est le même principe, la même attitude qui est demandée.
C'est ça.
Ouais.
Dans les deux cas, on doit vouloir gagner l'autre au salut.
On se rend compte que la situation que Pierre parle, c'est lorsque quelqu'un nous demande raison de notre foi, nous questionne. Dans quelles circonstances, pourquoi quelqu'un questionnerait notre foi? Justement, dans la lettre de Pierre, il donne un exemple. Il dit, « Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils vous calomnient. » Eux, ils voient que tous les autres autour d'eux, les amis, la famille, ils vont tous dans le péché, ils s'enfoncent dans le péché, puis ils s'excusent les uns les autres, ils se justifient du péché qu'ils commettent. Ils voient que le chrétien, lui, il ne vient pas avec eux. Il trouve ça étrange. Puis là, il vous demande des comptes. Là. Des fois, ils se sentent jugés. Puis ils vous calomnient. Ils vont inventer toutes sortes d'histoires pour dire qu'en réalité, c'est vous qui êtes les méchants. Donc, à la base, pourquoi ils vous questionnent? C'est parce qu'ils voient que votre conduite est pure, qu'elle est sainte en comparaison à une vie de débauche. Une autre situation, ça peut être comme Jésus l'avait annoncé. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Donc, sachant qu'on est chrétien, des gens qui sont en position d'autorité peuvent nous prendre et littéralement nous demander des comptes ou nous faire un procès. Donc, ça peut être une autre occasion où on a à se défendre. Une autre occasion, c'est comme est mentionné dans 2 Corinthiens 5, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » Donc, c'est dans le contexte où on est en train d'évangéliser. On est en train de présenter l'Évangile, mettons, dans le métro, ou à un collègue d'études, un collègue de travail, ou à un voisin. Puis alors qu'on lui présente l'Évangile, là, il nous demande des comptes à nous, là. Mais pourquoi tu crois ça? Puis même, il va attaquer notre foi, la cohérence de la foi chrétienne. Il va attaquer notre Dieu ou le Seigneur Jésus. Et on sent que par amour pour lui, par amour pour la foi, par amour pour la vérité, on veut défendre, rectifier les faussetés qui sont dites. Mais est-ce que c'est légitime de vouloir faire ça? Il y en a certains qui s'y opposent, et même des théologiens de renom, là. Ils disent qu'on ne devrait pas chercher à défendre la foi. Je ne sais pas comment ils interprètent un Pierre, là. Par exemple, une opposition, c'est de dire que l'apologétique, ça serait une tentative de vouloir prouver Dieu par des efforts humains, par des raisonnements humains, donc ça reviendrait à une religion des œuvres. On ne fait pas confiance à Dieu pour toucher le cœur de la personne, et là, on veut embarquer dans un raisonnement avec lui pour chercher à le convaincre par des efforts humains. Donc, ça serait à proscrire, ça serait un manque de foi dans la puissance de Dieu. Oui, Richard? Bien, Paul, c'est un bon exemple de quelqu'un qui aurait mal agi. C'est vrai. Oui, on a plusieurs exemples de défense de la foi. C'est vrai. Sauf que peut-être que ceux qui ont mentionné cela, il y a certains théologiens qui l'ont dit, avaient vu de leurs yeux des gens qui ne croyaient pas à l'action du Saint-Esprit et qui pensaient que c'était vraiment seulement un mandat humain. Là, ils dénonçaient cela. Ils ont peut-être dénoncé des abus, là. Mais on sait très bien que le Saint-Esprit agit à travers nous. Même si c'est une démonstration en parole et en action, lorsqu'on fait l'apologie, d'une intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit, comme on lit dans Romains 12. Le renouvellement d'intelligence par le Saint-Esprit nous amène à comprendre la vérité et pouvoir en témoigner, non seulement dans nos paroles, dans nos actions, tout notre style de vie vient qu'à témoigner de la vérité. Oui, René?
Est-ce qu'on pourrait dire que la différence entre l'évangélisation et l'apologétique, c'est que l'apologétique, t'attends que quelqu'un te parle, voire t'accuse, tandis qu'évangélisation, tu vas sur son terrain, qu'il t'ait invité ou pas?
Oui, c'est ça. C'est peut-être la seule différence. Puis des fois, c'est un mix des deux, là. Parce que comme on va le voir, en réalité, l'apologétique, elle sert l'évangélisation. Tu sais, c'est pas dans le but d'évangéliser. C'est pas bon. Ton objectif n'est pas bon.
Je ne sais pas si tu vas le mentionner plus tard, mais l'évangélisation devrait être le parapluie et l'apologétique est un aspect sous ce parapluie de l'évangélisation.
Oui, l'apologétique rentre dans le cadre de propager l'Évangile. Mais on va le voir un peu plus loin, là. Mais je pense qu'on ne peut pas évangéliser sans faire l'apologétique. La manière dont on va présenter l'Évangile, il y a une multitude de manières de le présenter. À la base, le cœur, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Mais comment t'expliques le péché? Comment t'expliques qui est Jésus? Comment t'expliques comment il est mort? La manière dont tu l'expliques dépend à qui tu parles. Et ça, c'est de l'apologétique, ça.
Pour défendre ta foi, tu dois la défendre avec la parole de Dieu. Tu dois la défendre, mais avec la parole de Dieu. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. L'argumentation doit toujours être basée sur la parole de Dieu. Si tu peux argumenter, mais c'est la parole de Dieu qui convainc justice. Le Saint-Esprit qui convainc justice et jugement, mais c'est la parole de Dieu qui amène la foi chez la personne. C'est pas tes argumentations.
Bien, je pense qu'on peut argumenter, mais basé sur la parole de Dieu.
C'est ça, c'est
pas sur des, sur la philosophie uniquement. Là. Ouais, certaines ne l'ouvriront jamais. Puis on sait que le Saint-Esprit veut toucher les cœurs, sauver les gens, mais à travers nous. Il nous utilise comme ses instruments pour toucher les cœurs et convertir.
Dans la suite de Romains 12, il dit aussi de ne pas être prétentieux, d'être humble. Donc, même dans la défense de la foi, Il ne faut pas que la personne se sente abaissée et que nous, on soit élevés. Nous, on est meilleurs que toi. Toi, tu es dans le champ. Si c'est ça notre attitude, ce n'est pas une bonne attitude.
Non. Sauf que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, aussitôt que tu oses prétendre que tu connais la vérité, tu as de l'air prétentieux. Ça ne passe pas. Veux pas, Jésus dit qu'il est la vérité. Tu ne peux pas dire, ah ben Mahomet est aussi la vérité, Bouddha est aussi la vérité. Non. Il y a seulement Jésus. On est obligé de dire ça. Donc, je ne veux pas, on va avoir de l'air prétentieux, mais il ne faut, faut pas que notre attitude soit prétentieuse aussi.
Ça dépend comment...
C'est vrai.
Mais non, mais ça dépend,
si
c'est ça.
On l'annonce,
mais prendre le temps de même d'écouter la personne, poser des questions. L'idéal même, c'est de pouvoir arriver à soi-même résumer dans quelques phrases que l'autre croit, puis que l'autre puisse dire, oui, c'est ça, c'est à ça que je crois. Même qu'il en est fier du résumé que tu as fait. Après ça, tu rentres dedans. Il y a aussi Spurgeon qui a dit, c'est quoi le meilleur moyen de défendre un lion qui est dans une cage, en comparant Dieu à un lion, contre ceux qui l'attaquent? C'est de laisser sortir le lion. Son point, c'était, on ne doit pas chercher à défendre Dieu, on doit laisser Dieu se défendre par lui-même. Donc lui, il s'opposait à un débat apologétique. C'est quand même un bon argument. Qui est chargé de propager cette parole-là? C'est les serviteurs de Dieu, c'est ça.
Oui, puis ultimement, à la fin des temps, là, c'est ça qui va arriver. Ultimement. Mais entre-temps, Dieu se sert de nous pour annoncer. T'sais.
Mais on est d'accord que c'est Dieu qui donne la foi. Que peu importe les bons arguments qu'on donne, même si c'est les meilleurs au monde, puis que l'autre est bouché, il ne sait plus quoi répondre, si ce n'est pas Dieu qui touche son cœur, il ne va pas se convertir. Mais de toute manière, c'est toujours ça. C'est toujours le cas, peu importe comment on s'y prend. Même si on dit, ah, je veux juste lui donner une Bible et il va la lire, c'est toujours le Seigneur qui touche le cœur de la personne pour l'amener à se convertir. Et c'est vrai aussi qu'on ne doit pas chercher à redorer l'image de Dieu en utilisant la philosophie. Ça, c'est une tendance qui existe, là. Par exemple, si tu parles de l'enfer aujourd'hui, là, dans le monde, c'est très mal vu. Tu dis que ton Dieu, c'est Dieu amour, comment il pourrait envoyer des gens en enfer? Fait que là, il y a des chrétiens qui, pour défendre l'image de Dieu, ne parleront jamais de l'enfer. C'est comme si, pour défendre ce que Dieu dit ou redorer l'image de Dieu, il y a certaines choses que Dieu dit dans la parole qu'ils vont mettre de côté. Ça, c'est un mauvais moyen de défendre Dieu. On doit l'exposer clairement. Ce qu'il dit, avec vérité, mais d'une manière aussi que les gens vont pouvoir le comprendre et que ça va faire du sens. Ça doit être rationnel quand même, ce qu'on explique. Et en faisant ça, en réalité, on fait ce que Spurgeon dit, c'est qu'on laisse sortir le lion de la cage. Il est capable de se défendre lui-même. On n'a pas essayé de trouver une manière autre que la manière dont la Bible présente les choses. Et comme on disait, Dieu confie à son peuple le mandat de proclamer, de reprendre, d'exhorter, d'encourager, de réfuter les contradicteurs aussi, et de défendre. Pas parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, Dieu va le faire à travers nous. Un dernier argument contre l'apologétique, c'est l'apologétique chercherait à trouver un terrain d'entente avec les non-chrétiens simplement pour débattre. Donc les débats, les discussions, les échanges de points de vue sont contraires à la nature de l'Évangile. C'est vrai qu'il y en a que c'est ça qu'ils font. Ils apprécient les débats, ils vont mettre en place des lieux où est-ce que même le non-chrétien va se sentir à l'aise, puis on va être sûr qu'ils reviennent, puis c'est juste un endroit pour réfléchir, philosopher ensemble, puis on va débattre. Puis dans le fond, on cherche un terrain d'entente où est-ce que, ah, ben tous les deux, on est d'accord là-dessus, mais on va continuer à travailler là-dessus. Si c'est ça le but, c'est un cercle, là, ça mène à rien. Mais la Bible contient de nombreux exemples de défense de Dieu, bien, comme on disait tantôt, et pas seulement de prédication. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement proclamer la vérité, puis accepte-la ou pas. Il y a vraiment un échange, il y a un dialogue, et ça, on a de nombreux exemples. une présentation qui est adaptée à la personne à qui elle est adressée. Et parfois, donner raison aux non-chrétiens sur la part de vérité dans sa vision, c'est une bonne chose. Même ça peut servir de point de départ pour lui présenter l'Évangile. Ouais, Paul le fait, c'est ça. C'est pas, même si la vision d'un non-chrétien est fausse, il y a des aspects dans sa vision qui sont bonnes, qui sont bons. En réalité, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il emprunte ces aspects-là à la foi chrétienne, à la Bible. Par exemple, un athée, tu lui demandes, tu le pousses au pied du mur pour lui dire « Est-ce que le bien ou le mal, ça existe? » Il va finir par dire « Oui, c'est vrai que un meurtre, c'est mal. » Ou de secourir quelqu'un qui est blessé, c'est bien. Pourtant, dans la vision du monde athée, ça ne fait pas de sens que le concept de bien ou de mal comme des valeurs absolues. Ça vient d'où, ça? Mais il l'emprunte, dans le fond, à la foi chrétienne, cet aspect-là. Mais on va le voir plus tard, là. Mais c'est quand même quelque chose qui est bon. Et on peut dire « Ah, je suis d'accord avec toi. » Mais on part là-dessus pour représenter. C'est qui a établi ça, ces lois-là, ces principes moraux? Et on va résumer les caractéristiques d'une bonne apologétique. Vous en avez déjà mentionné plusieurs. Ça doit servir à l'évangélisation. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 2, 1 et 2, s'il vous plaît.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Donc, Paul a pris le temps de débattre, mais il n'y a pas eu honte de l'Évangile. Ce qui est présenté, c'est Christ crucifié. Il ne s'est pas perdu dans des débats de philosophie. Et c'est pas parce que sa philosophie était plus intelligente qu'un autre. Il a présenté la foi chrétienne. Mais il l'a quand même fait de manière raisonnée et logique. Mais on voit que son but, c'était l'évangélisation. C'était pas de débattre, d'essayer de voir qui a la meilleure philosophie. C'était de présenter Christ. C'est ça, son but. Elle doit être biblique, comme disait André. 2 Timothée 4, 2. Vous vous souvenez qu'est-ce que ça dit?
Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant.
Oui, en toute occasion, donc même lorsqu'on t'accuse faussement. Même lorsque tu es acculé au pied du mur pour te défendre ta foi, c'est avec la parole. Bien sûr, sans honte, je n'ai point honte de l'Évangile. Avec un témoignage d'une vie qui est consacrée au Seigneur, on offre, dans Romains 12, 1, on offre nos corps, même en sacrifice vivant pour le Seigneur. Donc, même un non-chrétien devrait le voir, là, qu'on est consacré au Seigneur. Ça comporte un élément négatif et un élément positif, l'apologétique. C'est-à-dire que, premièrement, on doit répondre aux accusations, aux objections qui nous sont faites, pour dire non, c'est pas vrai. Et on doit présenter ce qui est vrai. Comme quelqu'un qui est accusé d'avoir commis un vol, mettons, puis il y a un procès, son avocat va pas seulement plaider le fait que les accusations sont pas bonnes contre lui. Normalement, il va même plaider le fait qu'il est innocent et qu'il n'a pas fait cela. Bon, en tout cas, c'est subtil, là, mais ce n'est pas seulement répondre aux accusations, c'est aussi parler en faveur de la foi chrétienne. Donc, l'apologétique conduit à présenter l'Évangile. Et l'apologétique va être adaptée à la personne qu'on rencontre. Par exemple, une présentation de l'Évangile qu'on connaît très bien, évangélisation explosive, ça s'adresse principalement au concept du salut par les œuvres, la religion par les œuvres. Comme ce que Richard nous parlait, il y a eu un temps où est-ce que c'était le cas de tout le monde qu'on rencontrait. Pensait pouvoir aller au ciel en gagnant une place au ciel par les bonnes œuvres. Donc, on commence, en fait, en ébranlant sa vision du monde. Est-ce que, si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir la vie éternelle? Là, ça l'ébranle parce qu'un bon catholique, il va être obligé de dire non. Parce que ça revient à Dieu, ça. Moi, je ne sais pas si je n'ai fait assez. C'est Dieu qui va décider. Donc, on l'ébranle un peu, là. Non, je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Puis là, même, on peut y présenter. Mais la Bible dit que c'est possible d'être sûr. Comment ça se fait que tu ne l'es pas, toi? Bon, ça vient de l'ébranler. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous répondriez à Dieu si vous demandez pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel? Puis là, de sa propre bouche, il va finir par dévoiler que c'est parce que j'ai suivi tes commandements ou parce que je suis une bonne personne. Dans le fond, il présente sa vision du monde, mais on soulève, même lorsqu'il répond, il va s'apercevoir qu'il y a comme une contradiction ou il y a une tension. Ou qu'il n'y a pas moyen dans sa vision de savoir s'il a la vie éternelle ou pas. Qui pourtant est une promesse, c'est une bonne nouvelle. Puis là, on lui présente l'Évangile en fonction de cela. On commence par la grâce pour dire que la vie éternelle, elle est gratuite, elle ne peut pas être gagnée. C'est un cadeau. On ne sait pas le résultat des efforts. Pour cela, on présente la situation de l'homme qui est perdu, qui est de toute façon Il ne peut pas rien mériter, il ne peut pas rien gagner. Il est perdu parce qu'il a péché. Il est même mort à cause de son péché. Pourquoi? À cause de la nature de Dieu qui est juste et qui doit punir le péché. Mais en même temps, Dieu est amour et ne veut pas punir le péché. Ce n'est pas ce qu'il désire. Cette tension-là, elle est résolue en Jésus. En punissant Jésus à notre place, Dieu accomplit la justice, il punit le péché et il ne nous punit pas. Donc, son amour aussi est satisfait. Mais cela, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie, c'est seulement ceux qui ont la foi en Jésus et qui s'y engagent. Puis on explique que ça implique la repentance, c'est un engagement. Une foi qui fait en sorte qu'on met notre confiance seulement en Jésus pour la vie éternelle. Mais pourquoi on commence par la grâce? Parce qu'on pourrait commencer par d'autres aspects. On pourrait commencer par présenter Dieu qui est créateur. Ou on pourrait commencer par présenter que Jésus est venu, puis là on développe. Pourquoi on commence notre présentation de l'Évangile par la grâce? C'est parce qu'on s'adresse justement à quelqu'un qui n'a pas compris cela. Qui pour lui pense être sauvé en faisant des bonnes œuvres, en accumulant des points sur sa carte. Mais en réalité, l'évangélisation explosive est un exercice d'apologétique face à 99% des gens qu'on rencontre. Là. Mais aujourd'hui, on en rencontre quand même qui n'ont pas cette position-là. Ici, on leur demande, pensez-vous que vous avez la vie éternelle? Certains ne comprennent même pas ce concept-là d'avoir la vie éternelle. Ou ils ne croient pas du tout à cela. Ou que répondrez-vous à Dieu? Mais ben, moi, je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas de ciel. Quand je meurs, c'est fini, on est juste de la matière. Ou je me réincarne, je recommence. Dans certains cas, oui. Mais en réalité, c'est ça, c'est là où ça devient un art, l'apologétique, c'est qu'on évalue, on essaie de comprendre la position de l'autre pour présenter, orienter notre présentation de l'Évangile. Répondre à ses questions ou soulever les incohérences dans sa position. Ici, en fait, toute cette présentation-là soulève l'incohérence d'une religion par les œuvres. Comment tu peux être en paix face à ton Seigneur, puis même avoir hâte de le revoir, si tu ne sais même pas que tu as la vie éternelle? Il y a comme un non-sens, là. Dans les minutes qui restent, on va regarder quelques exemples d'apologétique dans la Bible. Bien, il y en a des centaines et des centaines, mais en commençant par Dieu lui-même, qui nous sont rapportés. C'est quoi la première accusation qui a été portée contre Dieu? Par Satan, oui. Oui, donc il sous-entendait que Dieu était probablement menteur et mauvais aussi, méchant, parce qu'il disait, Dieu vous a dit de ne pas manger d'aucun arbre du jardin. Ça n'a pas de bon sens, Dieu est méchant. C'était pas vrai, c'était un seul arbre qu'il avait interdit. Puis en plus, Satan lui disait, mais ce qu'il vous a dit, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme Dieu. C'est une accusation portée. Oui, oui, mais il a commencé par semer le doute, là, pour conduire à un gros mensonge flagrant, mais Ève a embarqué dans le panneau, puis Adam a suivi. Mais la suite du récit, c'est Dieu qui nous a montré ce récit-là, dans le fond, c'est Dieu se défend en prouvant le contraire. Comment? Il a fait grâce, il est compatissant, puis Dieu prouve qu'il veut rester fidèle à sa création, puis il pourvoit dès le début un plan. Puis, là où il a été traité de menteur aussi, c'est que, supposément, il avait dit, Satan a dit, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Mais Adam et Ève sont devenus mortels à partir de ce jour-là, puis ils ont été coupés d'une relation intime qu'ils avaient avec Dieu. Donc, Dieu n'était pas menteur, les conséquences étaient réelles. Une autre accusation qui a été portée à Dieu, ou plutôt poussée à se défendre, c'est un exemple, c'est Job, qui lui demande pourquoi tout ça arrive. Là. C'est comme s'il appelle Dieu à la barre pour qu'il se défende. Comment ça se fait? Je n'ai pas commis d'injustice. Pourquoi que je subis tout ça? Puis même, je subis les accusations de mes supposés amis qui disent que je suis méchant. Dieu, pourquoi? Et comment Dieu se défend? Donc, il tourne les yeux vers... pas vraiment vers la raison du pourquoi, du comment, mais plutôt sur la personne de Dieu, sur qui il est. Le Créateur, le Souverain. Oui. Je suis pas un être qu'on peut appeler à la barre pour que le poussin se défende. C'est ça. Je suis, en un mot, je suis le Créateur. Mais Dieu a quand même permis que ce texte-là soit dans la Bible pour nous le montrer. Là. C'est vraiment un exemple clair d'une défense de Dieu, mais qui est toujours un enseignement de la vérité.
Puis il dit... Job ne le sait pas à sa question, mais nous le savons. Je suis créateur. Il y a d'autres forces ennemies dans le monde et je les limite. Donc oui,
oui.
Mais il y a toujours bien, c'est moi qui suis en contre.
Oui, c'est vrai. Il nous a fait grâce en plus de nous dévoiler comment ça s'est passé. C'est Satan, en fait, qui a fait tout ce mal-là à Job, mais sous le contrôle, la permission de Dieu. On voit aussi, rendu à l'époque des juges, là, ils sont entrés dans la terre de Canaan. Il y avait Moïse qui était leur dirigeant. Ensuite, il y a eu Josué. Là, tout à coup, Josué meurt. Puis là, ils étaient censés hériter du pays puis posséder tout le territoire, mais il y a plein d'ennemis qui sont là. On va aller voir Juge 1, 28 à 36.
Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne put les déposséder. Éphraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahol-Lol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent astreints à la corvée. Aser ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achlab, d'Akzib, de Helba, de Afik et de Rehob.
31.
Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anak, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anak furent astreints à la corvée. Les Amoréens dépossédèrent les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Erès et à Ayalon et à Shaalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent astreints à la corvée. La frontière des Amoréens allait de la montée depuis Sela et au-delà.
Les habitants de Kitron ont dit « Nous ne quitterons pas ». Mais ce qui est soulevé ici comme problème, puis dans le fond, ça révèle la pensée de l'époque, là, le peuple d'Israël dit « Coudonc, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu est fidèle à son alliance? Il nous a promis qu'on hériterait la terre. Comment ça se fait? » Et c'était même... cette pensée-là pouvait circuler dans les autres peuples qui avaient entendu dire qu'Israël venait pour tout conquérir. Puis là, finalement, ils réussissent à repousser Israël dans bien des cas. Israël ne réussit pas à déposséder toutes les nations qui possédaient Canaan. Puis là, c'est la fidélité de Dieu, en fait, qui est mise en question. Et comment Dieu se défend? Juge 2, 1 à 3.
Et l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et il dit, « Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. Et j'ai dit, je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas de devant vous, et ils seront à vos côtés, et leur Dieu... vous serez en piège.
C'était ça la réponse, en fait. Et d'ailleurs, Dieu l'avait même annoncé dans Deutéronome que c'est ce qui allait arriver. Donc, c'est pas que Dieu a été pris de court, c'est une condamnation de Dieu face au peuple qui a été infidèle. On voit plus tard, à l'époque de Gédéon, Baal semble plus puissant même que Dieu dans bien des cas. Et le peuple se met à adorer Baal. Et c'est sous-entendu qu'il le compare avec l'Éternel. Et si Dieu n'est pas capable de chasser Baal du pays, si les Cananéens réussissent à avoir des victoires, ça doit être parce que Baal est plus fort que Dieu. Et le signe de la toison, c'est intéressant, ça. Parce que Baal était censé être le dieu qui contrôle la pluie et la rosée. C'est pas pour rien que Gédéon demande à Dieu de ce signe-là en particulier. Il dit, « OK, Seigneur, permets qu'il y ait de la rosée partout, sauf sur la toison. » Puis Dieu l'accomplit. Pourtant, c'est Baal qui est supposé d'avoir tout pouvoir là-dessus. Puis il demande le contraire aussi. Je ne me souviens pas c'est lequel qui est avant lequel. Là. Il y a de la rosée seulement sur la toison et à côté, c'est sec. Mais Dieu démontre vraiment sa puissance, puis Gédéon est convaincu. On voit un peu avant aussi que Dieu demande à Gédéon de détruire l'autel à Baal. 6:31. Il semble que même Baal n'est même pas capable de punir Gédéon d'avoir détruit son autel. C'est vraiment une démonstration pour ceux qui accusaient, là. 6.31.
Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, ça c'est 6.31. Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Gédéon de démolir l'autel. C'est vraiment une démonstration de puissance et de montrer que Baal ne peut rien. Il n'est même pas capable de punir celui qui a fait ce geste. Puis c'est souligné dans le texte. Donc, on voit que c'était ça l'intention. Mais ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de prophète. Mais en réalité, tous ceux qui écrivent ces textes-là agissent comme prophètes. Mais plus tard, les prophètes viennent. Puis l'emphase est vraiment mise là-dessus, une défense de Dieu par rapport aux idoles. C'est ça que les prophètes, en fait, présentent au peuple. C'est le choix. Vous devez choisir, là. C'est Dieu ou les idoles. Ça ne peut pas être les deux. Ils sont souvent mis en opposition. L'Éternel, lui, il existe réellement. Et quelle preuve qu'on a pour sa défense, c'est qu'il accomplit les prophéties. Il est vraiment un Dieu vivant dans l'histoire. Même, il est appelé le Dieu vivant. Donc, l'accomplissement des prophéties est amené comme des arguments à la défense de Dieu. Contrairement aux idoles qui... Ils ne peuvent pas faire de promesses et ils peuvent encore moins les accomplir. Bon, on ne prendra pas le temps de lire tous les extraits, mais dans Esdras, on voit que c'est selon l'accomplissement des prophéties de Dieu que tout se passe, que Cyrus arrive, puis donc le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et contrairement aux idoles, il entend les prières et il peut répondre. Vous vous souvenez ce qui se passe dans 1 Roi 18? C'est ça, c'est Élie qui, dans le fond, qui confronte les prophètes de Baal puis il leur fait passer un test. À fond, c'est une mise en scène là, qui a pour but de défendre Dieu. Parce qu'il restait presque plus de prophètes de l'Éternel dans le pays. C'est des prophètes de Baal. Puis les 400 sont là, puis ils invoquent leur Dieu, puis c'est silence radio. Ah, il rit d'eux autres aussi, ouais. Il dit, coudonc, Baal, il est-tu parti aux toilettes? Dans Jérémie 10 aussi, Jérémie se moque un peu des... Bien, au nom de Dieu, il n'est pas de parole de Dieu, mais il se moque des idoles qui sont fabriquées par des hommes, puis qu'après ça, on les loue, on espère qu'ils vont répondre. Mais il y a un aspect ridicule à tout cela. Il y a quand même un argument logique qui est amené, là. L'idole que vous adorez, vous l'avez fabriquée vous-même, selon votre propre créativité, là. Vous avez inventé un Dieu, puis après ça, vous pensez qu'il peut vous aider. Puis vous pensez que vous pouvez même le manipuler, puis que dans le fond, vous êtes vous-même des dieux. Vous pouvez vous créer vos propres divinités. C'est ridicule. Puis Jérémie, en fait, est en train d'amener le plaidoyer qu'il ne peut pas y avoir une foule de dieux, là. Et les dieux ne peuvent pas être créés à l'image des hommes. Il y a un seul vrai Dieu, c'est le Créateur qui a créé les hommes. Des épouvantails. Ensuite, arrivé dans le Nouveau Testament, on peut voir les quatre évangiles, non seulement comme une proclamation ou les récits historiques de la vie de Jésus, mais vraiment comme une défense, une apologie de Jésus. Les quatre évangiles, les auteurs veulent convaincre que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Christ qui est attendu, le moyen de rédemption de Dieu. Dans Matthieu 1, on lit, on va aller voir.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par les prophètes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous.
Oui, donc là, Matthieu n'est pas seulement en train de nous relater des faits qui sont arrivés. C'est comme un commentaire du narrateur aussi, là, un éditorial. Parce que c'est pas seulement un fait qui est là. Il est en train de nous dire ça s'est passé pour accomplir la prophétie. Il est vraiment en train d'essayer de nous convaincre que toute la vie de Jésus est l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé. Puis il le fait régulièrement dans tout l'Évangile de Matthieu. Quelqu'un veut nous lire Marc 1, 1 à 3?
Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.
Donc, comment Marc présente son évangile? Dès le départ, il insiste sur le fait que ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En partant, il ne prend pas de détour, là. C'est Jésus que je vais vous présenter là, dans les prochains chapitres. C'est le Fils de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est venu sur terre. Luc 1, les quatre premiers versets.
Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Amen. Oui, est-ce qu'on peut dire que c'est que l'Évangile de Luc est apologétique? Tiens, on va conclure avec Jean 20:30-31.
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Ils ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Amen. Oui, donc Jean dévoile son intention. Il a sélectionné des événements de la vie de Jésus. Il les a assemblés pour écrire son évangile dans le but exprès de convaincre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on croit en lui et qu'on ait la vie éternelle. On va continuer la semaine prochaine, puis on va voir la manière dont Jésus a présenté, a fait l'œuvre d'un apologète et comment il a transmis cet art-là à ses disciples, entre autres Pierre et Paul. Puis on va voir comment l'appliquer ensuite à notre apologétique.